Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, rencontre avec Noé Gédouab, psychiatre à Marseille. Avec lui, nous évoquons la prise en charge du trauma colonial. Bonne écoute. Bonjour Noé.
Bonjour Pauline.
Merci d'avoir accepté de nous rencontrer dans le cadre de Pourquoi tu cries. Une des premières choses peut-être, c'est de te présenter, d'expliquer un petit peu qui tu es et quels sont tes sujets de travail un petit peu à nos auditeurs, auditrices.
Je m'appelle Noé Gédouab, je suis psychiatre de profession, marseillais, ayant fait mes études de psychiatrie à Marseille. Alors, ayant fait mes études de psychiatrie, avant j'ai été médecin généraliste quand même. J'ai pas mal travaillé dans les quartiers nord, en campagne aussi. C'est vrai que j'ai eu cette culture, en remplaçant notamment des médecins qui faisaient beaucoup de visites à domicile, de la culture de l'aller vers, d'aller chez les gens, qui est quelque chose que je reproduis comme je peux dans ma pratique actuelle, parce que d'une, c'est agréable, et de deux, c'est pas le même travail. Mais bon, forcément, on est limité par les nécessités du moment, notamment liées au fait qu'on est en sous-effectif et que c'est compliqué d'avoir quand même ce genre de pratique. Bon. J'ai fait beaucoup d'urgences psychiatriques à Marseille, moi. J'ai travaillé longtemps aux urgences psychiatriques centre à Marseille. Et puis j'ai décidé de m'installer en activité libérale dans le 14e arrondissement à Marseille il y a 3 ans, au début de la, juste avant la crise Covid en fait. Ce que je peux dire de moi, parce que c'est quelque chose qui nourrit ma pratique. Alors moi j'ai une histoire tout de même familiale migratoire, puisque ce sont des gens, moi du côté de mon père, qui ont quitté la Pologne pour fuir le nazisme et qui sont venus en France sous une fausse identité. Accueilli chichement par la France, ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été dans la vie de mes grands-parents en tout cas, qui naviguaient entre la France, l'Allemagne, mon grand-père continuait de travailler en Allemagne, ma grand-mère était très seule, dans une résidence marseillaise qui s'appelle la Masnode, avec mon père qui a passé quand même pas mal d'années à Marseille. Ce qu'il y a dans mon histoire, moi, qui est important, c'est que c'était des gens qui faisaient de la musique. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai récupéré. Mes grands-parents étaient des gens qui faisaient de la musique. Et j'ai récupéré ça. Et moi, je suis actuellement batteur dans un groupe de musique kurde, parce qu'on s'est rencontrés avec des Kurdes marseillais, qui, eux, sont des Kurdes originaires de Turquie. On a recruté des Napolitains entre-temps et on a monté un groupe qu'on essaye de propulser, qui est assez drôle, parce que en même temps, qui vit cette expérience migratoire et avec des résonances sonores qui sont très en lien avec nos vécus respectifs aux uns et aux autres. Puis après, je dessine et je peins, et c'est quelque chose qui a de l'importance dans le travail que je peux effectuer avec les gens, parce que je pense que le soin passe par une forme de plébiscite de la transcendance, c'est-à-dire de la capacité à sortir de ses gonds en criant, notamment, hein, pourquoi pas. C'est assez régulièrement conseillé, mais en développant l'une de nos compétences naturel en tant qu'humain, qui est la créativité en fait. Et moi, ça me paraît extrêmement important.
Et alors, on dit que on transmet à travers l'histoire familiale aussi une part de l'exil qu'on a vécu et de la trajectoire qu'on a vécue en quittant quelque chose et en arrivant dans un ailleurs qu'on ne connaît pas. Est-ce que par votre expérience professionnelle et de famille, c'est quelque chose que vous retrouvez ?
Je dirais que tout de même, ce que j'ai comme expérience personnelle vis-à-vis de tout ça, c'est assez particulier, parce que moi, je dirais que ce qui m'a été transmis, c'est l'expérience transversale, en fait. C'est-à-dire la capacité à se rencontrer, notamment en dépit des différences. Mon père, donc, est issu d'une famille juive polonaise. Ma mère est issue d'une famille quand même d'origine belge, mais nordique, assez traditionnelle. Quand ma mère est arrivée avec son petit métèque, ça n'a pas été du goût de la famille. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui m'a été transmis, c'est sans arrêt ce dépassement de ce que Freud, tiens, c'est intéressant, a appelé, notamment à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire ce qui fait la limite entre soi et l'autre. Ce ne sont que des règles imposées qu'on se fixe. Et si on fait un pas de côté vis-à-vis de ces règles imposées, c'est là où, au travers de la rencontre, tout un tas de choses adviennent, en fait. J'ai cette reconnaissance-là de ce qu'on m'a transmis de ce côté-là, quoi. Notamment au travers d'une histoire familiale. Moi, j'ai des parents qui ont été très militants. La justesse du combat a régulièrement été une règle, moi, qui a fait bain culturel dans lequel j'ai pu grandir, quoi. Et je me sens outillé avec ça. Et je pense que c'est très très utile quand on se mobilise et quand on rencontre d'autres personnes et qu'on mène des combats collectifs, surtout en 2022, dans un monde non pas figé, mais qui a tendance à parfois à se rétracter, hein, notamment politiquement. Je pense que ça, c'est important. Et je considère d'ailleurs que ce que je fais dans mon activité professionnelle a une forte dimension politique. Et la discipline que j'exerce, notamment, on ne peut pas la considérer détachée de ce fait-là.
En quoi c'est politique ?
Si les psychiatres ne se mobilisent pas, ne considèrent pas qu'ils ont un rôle dans l'aide à l'émancipation de leurs contemporains, moi je pense que ça sert à rien de faire ce métier, quoi. Purement et simplement. On n'est pas là pour soigner des maladies, filer des médocs, enfin c'est pas ça le truc. Le fond du travail, c'est pas ça. C'est notre présence qui à l'autre qui fait qu'on est thérapeutique.
À travers votre métier et dans ce qu'on se raconte là aussi, où il est question de mémoire, c'est des enjeux qui sont assez importants aussi pour Approche Culture et Territoire, et notamment dans la question de l'histoire coloniale de la France. Et ce qu'on voulait essayer aussi d'aborder avec vous dans cet entretien, c'était à quel point l'enjeu de la mémoire et de ce qu'on pourrait appeler une forme de trauma colonial, mais là, j'ai aussi envie de vous poser la question en quoi ça peut être un trauma.
Dans l'idée de certains théoriciens en psychiatrie, en fait, l'histoire des gens et ce qui provoque des processus psychopathologiques, ce ne sont que des successions de traumas, en fait, et de traumas non résolus. Alors, si on parle, par exemple, du trauma algérien, on peut avoir vraiment la sensation que se rejoue perpétuellement une scène, en fait, qui n'a pas été soldée, qui n'a pas été résolue. Les gens n'ont pas pu s'asseoir et se dire « Bon, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et comment on traverse ça, comment on le fait évoluer. Il y a une partie de ma pensée qui est critique, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui vont au-delà des rapports entre la France et l'Algérie. Hein. Il peut y avoir une utilisation politique du trauma, on peut le dire, hein, de façon tout à fait claire, parce qu'on peut dire tout de même que la politique algérienne traumatise ses ressortissants actuellement. Moi, j'en ai tous les jours des témoignages, notamment sa diaspora vivant en France. On l'a vu pendant la période Covid, des vols surcotés qui s'annulent 24 heures avant le départ pour être revendus à une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui a réellement existé. C'est une véritable maltraitance que quiconque fait des allers-retours entre la France et l'Algérie peut décrire. Sur la question de la réactivation du trauma, on peut avoir vraiment cette sensation que peut-être l'apartheid vécu en Algérie, finalement, se transpose et conserve un peu une même forme perpétuelle à travers de ce qui se passe, hein, dans tout un tas de quartiers qui ont été occupés par des Algériens arabes, des Algériens, des ressortissants d'origine algérienne, pieds noirs, juifs, et des gens qui sont sortis de ces quartiers, d'autres qui y sont restés. Là-dessus, moi, se superpose quelque chose que je ressens dans une ville comme Marseille, qui est quelque chose d'assez troublant, déstabilisant, parce que c'est difficile à cerner à première vue. Mais plusieurs fois, moi, je me suis dit, mais Marseille fonctionne quelque part comme un roman de Conrad, Au cœur des ténèbres, c'est-à-dire comme un comptoir cotonnier belge, avec des codes de rapports de classe, de rapports entre les individus liés à possiblement je sais pas si on peut dire, c'est parce que les mots sont forts, l'exploitation d'une masse, qui est une masse de gens indigénisés quelque part, des systèmes de capot, hein, comme on a pu voir dans les camps de concentration, hein, c'est-à-dire des gens qui supervisent, hein, l'exploitation de leurs contemporains. Alors, encore une fois, c'est toujours avec tact et mesure, parce que si on adopte une vision caricaturale des choses, je pense qu'on peut pas saisir tous les contours du problème. Mais une caste qui garde une mainmise. Enfin, moi, c'est la critique qu'on pouvait faire à Jean-Claude Gaudin, notamment, hein, notre précédent maire, avec ses liens avec l'Opus Dei, l'arrosage d'écoles privées catholiques avec l'argent public, pendant que les écoles publiques marseillaises se dégradaient.
Est-ce que ça passe aussi par du collectif, au-delà de tout ce qu'on peut faire au niveau individuel et comme travail sur soi, en fait ? Parce que souvent, on a l'impression que tout doit venir de soi, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose de collectif à organiser.
Mais moi, je pense que le soi et le collectif, ça va de pair en réalité, puisque l'individu doit regarder en lui-même, aller essayer d'explorer un peu les différentes aspérités qui le composent. Le problème après, c'est qu'on vient convoquer, y compris les invisibles, c'est-à-dire que personne ne peut revendiquer de se connaître complètement, parce qu'on est traversé par de la matière qui nous a été léguée. On ne peut pas discuter avec ceux qui nous ont laissé quelque chose d'important, qui a traversé la génétique, qui a traversé les générations, mais parfois qu'on a pu récupérer quasiment intact par un jeu de mémoire, d'agencement génétique, mémoriel. L'individu doit aller bien en soi, notamment pour pouvoir connecter avec le collectif. Alors là-dessus, je pense qu'en France, on ne fonctionne pas comme aux États-Unis, par exemple, parce qu'on n'a pas le même système de protection sociale. Aux États-Unis, les gens ont été obligés de s'organiser en groupe d'action, en groupe de pression, en système de lobbying, parce que c'était vital. En France, je pense que le lobbying est moins incarné parce que on a un principe politique tout de même fort et mis à rude épreuve actuellement, qui est le principe de solidarité nationale, c'est-à-dire vraiment il y a la dépense publique qui est censée avoir une noble fonction. Moi, je dirais qu'il faudrait, dans le meilleur des mondes, dans une probable utopie, mais ce dont on aurait besoin, c'est d'un accent mis de façon rédhibitoire sur la rigueur à apporter à la gestion de nos fonds publics, c'est-à-dire de ce système de solidarité. Je dis ça parce qu'au niveau psychiatrique, pour moi, il y a un fait qui est quand même assez intéressant actuellement, c'est que je trouve qu'on a un gros problème s'agissant de la question du soin psychiatrique et psychothérapeutique en France, notamment parce que cette noble chose qui est la sécurité sociale, qui est finalement la tutélisation de la relation de soins entre soignants et soignés par ce système de fonds publics qui fait que le patient n'est pas réellement client du soignant, malheureusement, par effet pervers, comme on est capable de produire les humains, on arrive à une espèce de déresponsabilisation de tout un tas de praticiens en psychiatrie. Pour moi, c'est absolument évident. On se demande qui fait quoi et il y a des abus. Ce qui fait qu'au niveau de la pensée, au niveau de l'engagement dans le soin, au niveau de la contractualisation autour du soin avec la personne, on est beaucoup moins opérant que dans les pays anglo-saxons, dans lesquels les gens travaillent de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus assidue, sur la question de la relation thérapeutique et qu'est-ce que ça implique.
Dans les patients que vous recevez, qui pourraient venir vous voir sur des enjeux justement liés à leur histoire, à leur histoire de migration, à l'histoire plus générale aussi du pays et de là où ils viennent, est-ce que les personnes, elles arrivent à mettre le doigt là-dessus, ou c'est au fil d'un travail et d'une discussion que ça peut émerger ? Est-ce que c'est une première raison peut-être de venir vous consulter, ou c'est jamais le cas ?
C'est jamais vraiment une première raison, parce que c'est très très difficile à dire. Alors après, il y a une question contextuelle. Comme en France, on a, et plus largement en Europe, on a la question de la demande d'asile quand même. La demande d'asile est en soi un motif de tentative d'installation sur un territoire français, par exemple. Donc forcément, le récit va venir argumenter la demande. Donc là, les gens sont obligés d'exposer le trauma sous tous ses angles. Je vois la situation, par exemple, de jeunes patients nigériens que je peux recevoir. C'est compliqué, parce que ce sont des gens qui sont inscrits dans un vécu de trauma qui se déplace, qui se transplante. Parce que le trauma nigérien, qui est un trauma lié à l'organisation désormais mafieuse de toute une partie du pays, quoi, s'importe complètement en France. Donc il y a des gens qui sont en France maltraités par des ressortissants de même origine qu'eux, comme ils l'auraient été dans leur pays d'origine. Ce qui est le cas, moi, d'un jeune homme que je reçois, qui a été très très en difficulté, et du coup avec des réactions paranoïdes. Et ça, moi, c'est quelque chose dont on parle dans l'article qu'on a écrit avec une collègue infirmière qui bossait avec moi à l'époque aux urgences, c'est qu'il y a tout un tas d'éléments de détermination du fait psychiatrique qui va advenir, c'est-à-dire d'une décompensation, de l'apparition d'un état, notamment psychotique, chez des migrants, lié à une trop forte perturbation des systèmes des références internes. C'est-à-dire que la différence et le fait de se heurter à une différence culturelle, à une différence de code, est un élément catalyseur potentiel de décompensation psychotique, notamment. Chez des gens qui ne sont pas structurés nécessairement du côté de la psychose.
Alors du coup, j'ai deux questions. Est-ce que ça peut se transmettre comme quelque chose qu'ensuite on laisse à d'autres générations. Est-ce que c'est pris en compte actuellement dans les politiques d'accueil ?
Il y a une clinique de l'exil. Alors à Marseille, on est mauvais. En tout cas, s'agissant des institutions psychiatriques officielles, à Paris, ils se sont mieux démerdés. On n'a pas une seule consultation interculturelle à Marseille quand même. Quand même hallucinant. Dans
c'est
une
quoi
ville.
Des consultations interculturelles ?
C'est-à-dire des consultations de cliniques inter- ou transculturelles à l'hôpital. Après, ça passe par des associations. Alors après, il y a Image Santé, il y a des assos qui travaillent avec ça. Mais c'est le milieu associatif. C'est pas l'hôpital, quoi. On a des centres experts bipolaires, nanani, nanana. Par contre, des gens qui sont pris dans des cliniques complexes, où il s'agit vraiment d'aider les gens à faire le récit, dépister les éléments où d'un seul coup ça part dans des mouvements. Et c'est une clinique riche, enrichissante pour les praticiens, praticiennes. Ah non, ça on n'a pas.
En plus, dans une ville comme Marseille, on pourrait se dire aussi.
Mais oui, dans une ville d'exilés, quoi, avec un brassage de communautés permanent.
Et alors ça peut se transmettre à nos enfants
Dans la mesure où tout se transmet, et toute la question, je pense, y compris dans le fait d'élever, de faire grandir des enfants, pour nous humains, c'est qu'est-ce qu'on leur lègue, qu'est-ce qu'on leur transmet. Donc, transmettre un trauma intact, on le transmet. On sait aujourd'hui, alors on le sait, des gens très sérieux l'expliquent très bien, le trauma se transmet par des voies épigénétiques. L'épigénétique, c'est quelque chose de scientifiquement très intéressant, mais qui est en fait le fait de plus seulement se préoccuper du génome, mais de la façon dont le génome est codé, notamment en fonction des expériences que traversent les individus. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements permanents de permission, inhibition, de la transcription de tout un tas de zones du génome en fonction des nécessités, c'est s'agissant des maladies, mais s'agissant des apprentissages. Par ce process, quelqu'un qui va apprendre très assidûment un sport, un instrument de musique, quelque chose, à 20 ans, pendant 5 ans, en fait de façon intensive, à 25 ans, devient parent. Il y a une potentialité parce que l'expérience est allée bouleverser la transcription de la génétique, du génome. Il y a une potentialité à transmettre, en fait, cette mémoire épigénétique à la descendance. Et le trauma, on s'est rendu compte que oui. Parce qu'en plus, ça vient mobiliser des mouvements psycho-organiques dans le corps, ce qui est vachement important, quoi, c'est-à-dire tout un tas de systèmes de régulation du stress qui passent notamment par le système de régulation hormonale qui est directement en lien avec l'activité du cerveau, notamment par l'intermédiaire de l'hypothalamus qui vient réguler tout le système de sécrétion hormonale et le fonctionnement de l'organe qui fait maturer le système immunitaire dans le corps humain. C'est-à-dire qu'on peut largement considérer le continuum entre les maladies auto-immunes et le stress. C'est-à-dire vraiment tout un tas d'éléments qui sont projetés depuis le cerveau, par l'intermédiaire de l'hypothalamus, sur la question du contrôle du thymus, qui est l'organe de maturation, notamment des lymphocytes, qui sont les cellules qui produisent des, qui produisent des anticorps. Dans le corps, notamment, les lymphocytes sont éduqués dans le thymus à ne pas tirer sur des cellules amies, quoi, des cellules du corps humain. Donc si le thymus déconne, on peut avoir des lymphocytes qui deviennent chien fou. Et ça, moi, je pense que c'est fondamentalement important, parce que dans l'épistémie des maladies et de comment, en fait, toutes les choses sont vraiment liées à nos vécus individuels et à nos vécus transmis, c'est d'une importance fondamentale. Et ça a un impact sur ce que l'on peut faire avec les gens. Parce qu'à partir du moment où on met à plat et on arrive à aider les gens à se réconcilier avec leur histoire, d'une manière ou d'une autre, il faut tricoter des choses, quitte à se construire des récits, les gens vont considérablement mieux. Et s'ils vont mieux, leurs enfants iront mieux aussi.
Donc c'est l'enjeu du récit individuel et collectif, quoi.
Absolument.
Tout se mêle.
Complet.
Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et pour clôturer cet entretien, qu'est-ce qui, sur toutes ces questions, vous donne envie de crier
Alors moi, je répondrai de plusieurs manières à qu'est-ce qui me fait crier. Qu'est-ce qui me fait crier dans un sens de joie, c'est les capacités qu'on a, le pouvoir qu'on a, les humains. Si on arrive à entretenir, développer notre sagesse réelle, c'est-à-dire vraiment notre façon d'être dans le monde, en coordination avec le monde, si on accepte qui on est et qu'on s'affranchit de ce narcissisme, notamment des petites différences, quoi, de sans arrêt aller chercher à faire autre chose que ce qu'on a à faire, je pense, fondamentalement, qui est d'évoluer le plus possible en harmonie avec le monde. Hein. C'est un vœu pieux, peut-être, mais je pense que voilà. Et créer surtout. Après, qu'est-ce qui me fait crier ? Moi, il y a plein de choses qui me font crier dans un sens où je suis en colère. Il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, notamment la frustration de constater qu'on peut vraiment mieux faire. Donc ça, ouais, en ce moment, j'avoue, de plus en plus dans ma vie, ça me fait crier, quoi. Réveillons-nous, quoi.
Et le cri est salvateur ?
Ah oui. La colère est salvatrice. Souvent, à mes patients, je leur dis, vous savez, moi, je suis colérologue. Si vous êtes en colère, moi, ça me fait plaisir parce qu'on a de la bonne matière à travailler, quoi. La colère est vivante, par définition. C'est une sensation, c'est un sentiment extrêmement vivant. Il faut des gens en colère. Les gens résignés, putain, c'est pas possible. Il faut que les gens sortent de la résignation.
C'est un beau message pour terminer cet entretien. Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.